Alors, moi, c'est Elisabeth et...
Moi, c'est Raphaël.
On a 5 enfants, parce qu'on a une petite au ciel. Et puis, on va vous présenter la ferme solidaire et puis le parcours que l'on a eu pour créer cette ferme. Moi, j'ai sorti mes petits carnets de bord. Alors, j'en ai... je crois que j'en suis au numéro 27. Alors, il y a plein de merci, là. Il y a des merci... J'écris à Dieu, alors je remercie pour tout, je remercie. Alors là, il doit y avoir des merci des personnes que je vois, que je connais. Là, il y a plein de merci de la famille, des amis, des paroissiens. Voilà. Mais il y a aussi des réflexions, des choses qui me semblent importantes à retenir pour moi. Et donc, je vais vous en lire quelques extraits, parce que sur ce parcours, Raphaël me disait, c'est pas mal de lire aussi... voilà, des moments de témoigner un petit peu, voilà, sur ce que j'ai pu vivre, moi, de mon côté.
Voilà, alors pour ceux qui voulaient qu'on parle de la ferme, on va vite en parler et on va évacuer le sujet, parce que ce qui est important, c'est le chemin. Donc, je ne savais pas que depuis 20 ans que je connais Elisabeth, elle écrivait dans mon dos « Adieu ». Donc, ce qu'on a fait pour cette conférence, on a pris plaisir à piocher quelques... Alors déjà, les photocopier, parce qu'elle voulait pas les abîmer. Alors, ce sont les vrais ici. Vous pouvez les toucher et les ouvrir. Ce sont les vrais. Elle va ouvrir après ici ce cahier-là, dans lequel on a photocopié, enlevé les passages où elle disait du mal de moi. Et moi, je vais après commenter ou... essayer de voir ce que je vivais à l'époque. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de pas écrit. Donc, vous voyez, j'ai rien préparé. J'ai juste le prospectus de la journée d'aujourd'hui, juste pour savoir que le thème, c'est construire l'avenir dès maintenant. Donc, je ferai une conclusion sur ce sujet-là. Mais après, je vous dirai tel que je l'ai vécu, ce projet. Voilà. Donc, le projet de la ferme, c'est ça. C'est une grande improvisation depuis plusieurs années où on s'est laissé porter avec confiance. Et Elisabeth, quelle est ta première lecture sur ce projet?
Allez, je vais prendre... Alors, j'ai plein de choses à dire, donc en une demi-heure, je n'aurai pas le temps. Mais donc, je vais prendre le petit... Soutenir Ralph, avril 2009. Relecture de la retraite dans la vie, parce que j'ai eu la chance de faire la retraite dans la vie. Cette retraite m'a poussée à faire des choix, à prendre des décisions que je souhaite poursuivre et conforter. Désir de suivre le Christ, même si ça peut chambouler mes projets. Désir de prier chaque jour, d'écouter ce que Dieu veut me dire, afin de m'appuyer sur lui et de lui permettre de prendre toute la place dans mon cœur. Désir de soutenir Raphaël dans son projet, d'y aider en lui dégageant du temps, en s'occupant des enfants, des tâches ménagères, en lui apportant aussi de la joie et la paix, en partageant ce que mon cœur dit, en l'écoutant et en lui faisant confiance. Ce choix de le soutenir m'engage à faire passer mes loisirs, mes activités, mon travail en deuxième plan. Désir de me délivrer de tout esclavage qui m'empêcherait d'aimer vraiment. Choix de ne pas être esclave de l'argent. De ne pas être esclave de mon temps personnel, et désir que la contradiction entre ma conscience, ma soif de justice, de paix, d'amour, et le mal qu'il y a sur la terre soit si forte qu'elle me fasse agir.
Tu veux que chaque fois que je rajoute un truc, parce qu'en fait les textes c'est vachement profond. En plus, le soir, quand elle écrit, c'est quand j'ai fini de me décharger sur elle, en lui disant « Mais j'en ai marre, j'arrête ce projet, c'est du n'importe quoi, ils sont tous des ploucs, les SDF, etc. » Et elle me remonte comme ça, là, tous les soirs, alors que moi, la journée, je défais le tapis. Et elle remonte, et tous les matins, ben, je retrouve la joie au cœur de repartir avec ce projet-là. Le projet de la ferme, ça a été, c'est vrai, une grande improvisation. Pour ceux qui étaient dans la conférence avant, où ils parlaient du vécu, du vivant et de la vie, eh bien, je me suis senti vachement vivant, en fait. Puisqu'il expliquait qu'en fait, le vivant, si j'ai bien retenu, hein, je fais le résumé de la conférence d'avant, c'est vachement gonflé, hein, quand même. C'est que le vivant, c'était avec le vécu, c'était vraiment avec toute cette expérience relationnelle qu'on avait avec les gens. Et ça, on ne pouvait pas nous le voler. On essayait de faire des clones, etc. Mais ça, on ne pouvait jamais nous le prendre. On aura beau copier-coller un être humain, on ne pourra jamais gagner l'immortalité ou l'éternité en faisant ça. Hein, si j'ai à peu près compris. Enfin, je vous explique avec mes mots. Et donc je me suis senti dans ce projet super vivant, parce qu'on était vraiment, rien n'était calculé, c'est une totale improvisation où on s'essaye de vivre avec des gens exclus, voilà, que la société a exclus, et nous on fait juste l'effort de les inclure, avec quand même une démarche active. Quand je vous ai mis dans le résumé « Se rendre mutuellement la vie plus belle », ça demande quand même une démarche active des deux côtés. Voilà. Mais c'est à la portée de tout le monde. Et c'est grâce à cet effort de base que chacun est capable de faire que l'on a pu construire le projet de la ferme dans une totale improvisation.
Alors, dans une totale improvisation, en sachant qu'on laisse Dieu à la première place. Enfin, pour moi, c'est essentiel. Alors, je vois ma maman, alors je pense à un petit extrait, là. Parce qu'en fait, on fait avec nos talents et il faut oser. Il faut oser. Je crois que tu veux que je sois inventive en amour, mon Dieu, en m'appuyant sur mes talents et en te faisant confiance, car tu consolides l'ouvrage de nos mains. Comme mon enfant qui veut faire plaisir en bricolant un cadeau et qui me demande de l'aider à bien le faire. Comment refuser ? Et Dieu, alors, comment il fait ? Alors moi, comment je fais ? Je vais chercher le matériel, commencer à fabriquer avec l'enfant. Et s'il est fatigué de le faire ? Qui se décourage? Eh bien moi, la maman, je vais tout donner, tout mon temps pour lui finir avec soin afin qu'il soit fier d'avoir fait un beau cadeau. Eh bien Dieu avec nous, il est pareil. Et même infiniment plus. Alors n'ayons pas peur de nous lancer dans des projets fous. Je me souviens de maman qui nous aidait à tricoter de beaux pulls. Alors on faisait 2 rangs et elle en faisait 50. Joie de créer ensemble, chacun avec nos capacités et nos talents.
Ben, vous voyez que, en fait, Zabeth, c'est le côté un peu. On disait que c'est un projet fou. Il y en a qui m'ont dit ben, t'as l'air vachement fou, Raphaël. En fait, c'est elle la folle. En fait, elle est. C'est elle qui m'a poussé à être totalement fou. Et en même temps, elle me disait chaque fois. Parce que vous voyez, c'est elle la plus illuminée, enfin, la plus allumée, quoi. Moi j'ai 44 ans, j'ai attendu 33 ans pour faire ma première communion, je vais dire pour passer ma première communion. Et encore c'était pour rejoindre les cathos pour mieux les critiquer, parce que j'avais la carte du parti, donc je pouvais critiquer dans le parti. Donc, mais il y a des choses qu'elle me disait qui résonnaient. Elle m'a souvent dit « ne te prends pas pour Dieu, Raphaël ». Ça, c'est super important. Quand on a dans ces projets-là où tous les jours, on a envie d'arrêter, tous les jours, on dit ben, il faut continuer, il y a des êtres humains qui vivent, de ne pas se prendre pour Dieu, ça permet vraiment de lâcher prise, de laisser aussi le choix aux personnes d'être dans un état dépressif et de reconnaître que l'on est impuissant. On peut reconnaître que l'on est impuissant sans nier que la personne est en état dépressif. Mais on peut aussi reconnaître que c'est peut-être pas le moment d'agir et qu'on ne peut pas agir. C'est à la personne à accueillir peut-être un moment l'aide qu'elle pourra puiser chez nous. D'ailleurs, nous, on ne dit pas qu'on est aidant, on est plutôt accompagnant. C'est-à-dire que ben, on chemine avec eux. Ils savent qu'à un moment, il y a des petites pilules magiques qu'ils peuvent utiliser en allant voir Framboise, la personne avec la chemise bleue qui est devant moi, qui est très discrète, mais qui a une qualité d'écoute magnifique et qui a des outils pour que la personne aille mieux. Voilà. Même si vous allez bien, vous pouvez aller voir Framboise d'ailleurs, parce qu'en fait, elle permet d'aller de mieux en mieux. Donc même si vous allez très bien, allez-y la voir, vous allez aller très très bien. Voilà. Donc ne pas se prendre pour Dieu, ça m'a permis d'avancer.
Alors dans le chemin, on a cheminé petit à petit. Hein. 8 décembre 2008, Pour notre quatrième enfant, à l'échographie, on nous dit que l'enfant sera peut-être handicapé. Désir, transmettre ma joie que Dieu me donne de porter la vie et accueillir cet enfant comme un cadeau, un trésor que me fait Dieu. Comme dit Ralph, ça sera un clown de plus chez les Mars Clowns. 12 janvier 2008, tu me donnes un enfant en bonne santé. Mon enfant aurait été malade, peut-être aurais-je dû passer beaucoup de temps à le soigner. Là, tu m'offres du temps, que je l'utilise pour te louer, te servir, te respecter, mon Dieu. Que je fasse des choix de vie pour être ces mains que tu souhaites tendre, ces oreilles que tu veux attentives, cette bouche pour dire l'amour, ces pieds que tu veux promptes, aller soutenir l'autre, ce cœur pour garder toute chose au fond à méditer. Petite réflexion, comment vais-je utiliser mon temps? Alors, Eti Lessoum, que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous la connaissez, Eti Lessoum, c'est une jeune fille qui est morte à 29 ans à Auschwitz. Elle disait, il m'arrive de me demander ce que tu veux faire de moi, mon Dieu, mais peut-être cela dépendra-t-il de ce que je veux faire de toi. Alors, je poursuis. Ça va te donner d'autres idées. Oui. Bon, sur notre chemin, on continue. Des fois, je me pose des questions. Hein. Alors, entre-temps, dans mes livres, il y a plein de merci, parce qu'à chaque fois, je remercie. Framboise, elle me dit, ça, c'est la gratitude. Mais c'est vrai que j'ai des listes de merci, alors j'ai des merci à voilà, toutes les personnes qui sont... Et juste le fait même de croiser des gens, je me dis merci, je suis vivante. Hein. C'est vrai que... Et si on se retrouvait à la rue? Et si on se retrouvait à la rue? On nous pose, là, on se pose la question des fois, si on se retrouvait. Eh bien, écoutez, on aurait la joie d'être accueillis par nos amis si chers et notre famille. À vouloir tout contrôler, à vouloir se ménager, à trop se retenir, à ne pas se donner entièrement, à craindre l'avenir, on perd tant d'occasions de recevoir l'amour des autres. Alors n'ayons pas peur.
C'est vrai que si on a fait ce projet, on avait une putain de confiance en l'avenir. Et je pense que c'est ça qui nous a permis de foncer, de pas avoir peur. Ma mère, qui était pas très catho, d'ailleurs elle est pas dans la salle, c'est pour ça, me disait on te mettra dans une poubelle, tu t'en sortiras toujours. Mais en fait, c'était une manière, c'est de l'amour, manière de dire qu'elle a confiance, je m'en sortirai toujours. Donc moi, je l'ai trouvé positive, cette phrase de ma mère, et j'ai toujours été, oui, confiant en l'avenir. Et aussi, on accueille des personnes à la ferme qui sont joyeux, malheureux, et on est dans la... Les médecins disent des fois, ou les accompagnateurs, ou les psys disent, prenez la juste distance avec les personnes avec qui vous vivez. Nous, on est plutôt dans la juste proximité. Ça, c'est pour les titiller, s'il y a quelques psys. Mais on les aime beaucoup, les psys aussi. Mais vous, en fait, au fur et à mesure de la conférence, vous apprendrez à me connaître. Je suis insolent, impertinent, en tout cas pour construire l'avenir de demain. Ben, il faut remettre en cause tout le système d'aujourd'hui, ou du moins le faire évoluer. Jean Vanier disait que si une communauté n'innove pas, eh ben elle se meurt. Donc s'il y a des lois aujourd'hui qui stagnent, eh ben il faut pousser un peu les limites, parce que notre écosystème change. Voilà. C'est pas parce que Trump dit que la température n'augmente pas ou ne diminue pas que on va rien faire. Et deuxième point. Par rapport aux gens avec qui on vit, qui ont des grandes joies et des grandes tristesses, que évidemment par notre juste proximité on partage, et donc on est éclaboussé de leur bonheur, éclaboussé de leur tristesse, et il y a une sorte de compassion quand même avec les personnes avec qui l'on vit. On peut pas être insensible. Il y a un passage de la Bible. Alors, t'inquiète pas, Framboise, je...
Tu connais, toi, les passages amis ?
Ouais, j'en connais quelques-uns. Et c'est le fils prodigue.
Ah oui.
J'ai pensé, alors vous la connaissez mieux que moi, donc je la raconte rapidement. C'est grosso modo, hein, je te la raconte pour toi. Grosso modo, c'est un enfant qui part, qui fait des bêtises. Et
400 coups, quoi.
Il fait les 400 coups et il part. Et il a dilapidé toute la richesse de son père. Voilà. Et il y a l'autre, son frère, qui reste bien sagement à la maison. Et après, cet enfant passage qui revient à la maison, le père l'accueille vraiment magnifiquement et en lui disant, voilà, on va tuer le veau gras. Alors ça, c'est à l'époque, ça devait être super bon. On peut dire du foie gras aujourd'hui. Et il fait la grosse fête et le frère ne comprend pas. Le frère sage ne comprend pas pourquoi on fait une plus grosse fête à l'enfant qui n'a pas été sage. Et je comprenais pas, j'ai dit bon, c'est peut-être encore spi, je vais pas comprendre. Mais je l'ai fait il y a pas tellement longtemps. À la ferme, on a eu une personne qu'on accueille, où on n'était pas du tout satisfaite de son comportement. Et on était en train de lui dire que on peut pas te garder à la ferme. Et les autres habitants disaient, oui, t'as raison, Raphaël, vous avez bien décidé ensemble, on décide en équipe, mais vous avez bien décidé, il faut qu'il parte, puisque vous êtes plus utile pour lui. Hein. Les règles à la ferme, c'est que quand une personne n'est plus utile pour nous et nous plus utile pour elle, il faut qu'elle parte pour laisser la place. Si on n'est plus utile, c'est que peut-être elle a utilisé la ferme comme un tremplin, elle est prête à revenir dans le monde ordinaire, entre guillemets. Comme c'est radiodiffusé, il faut que je dise les gestes que je fais. Entre guillemets, le monde ordinaire. Et donc, on lui avait mis comme objectif de trouver un travail, etc. Il voulait pas travailler, donc on n'était plus utile pour lui. Il voulait juste un toit. Être à la ferme pour juste un toit, ça suffit pas. Il y a d'autres structures. Nous, à la ferme, on veut être un tremplin. Et il a trouvé un travail. Alors, il a trouvé un travail parce qu'on l'a menacé de partir. Mais quand il a eu son travail... Alors au début, il nous l'a pas dit parce qu'il avait accepté ce travail à contre-cœur. Mais le deuxième jour, il nous a dit qu'il avait bien travaillé, qu'il était content. Il nous a partagé. Et moi, j'ai dit, mais chouette, super, génial. Et les autres habitants, ils n'ont pas compris. Ils disent, pourquoi tu l'accueilles alors que hier, tu voulais le mettre dehors? Pourquoi tu l'accueilles aujourd'hui? Avec la joie, je dis, on va faire la fête. Il a trouvé un boulot et je sais pas si ça va durer 6 mois, son boulot, ou 2 jours, 3 jours, c'est pas grave. Mais voilà. Donc je suis des fois un peu bipolaire à la ferme, j'explique. Et donc je me l'explique à travers la parabole de l'enfant prodigue. Voilà.
On a eu, avant d'accueillir des personnes à la ferme, on a accueilli aussi des chiens guides d'aveugles en mai 2009. Les personnes me demandent si ce n'est pas trop dur de prendre un chien guide d'aveugle pour s'en séparer 2 ans après. Mais n'est-ce pas aussi dur de s'en séparer quand il meurt? Quand est-ce que ça vaut la peine d'aimer, de s'attacher à l'être aimé? Pour quelle durée est-ce que ça vaut la peine d'aimer, de s'aimer? Est-ce que pour un seul jour d'amour, ça ne vaut pas la peine? La joie est si grande qu'il faudrait se retenir d'aimer pour ne pas souffrir? Mais la souffrance n'est-elle pas plus grande quand on ne donne pas son amour et quand on refuse de recevoir l'amour d'autrui? PS. Sœur Emmanuelle est décédée. Elle me pousse à aller de l'avant. Yalla. En avant.
Ouais, c'est vrai, c'est souvent... Je fais Yalla quand je vais à la ferme. Pour 2 raisons. C'est que, petit clin d'œil, Sœur Emmanuelle, pour se faire violence, parce que on n'a pas choisi la facilité à faire le projet de la ferme. Hein. On s'est ruiné. On s'est ruiné la santé, on s'est ruiné le portefeuille, ça c'est rien le portefeuille. On a pris beaucoup du temps, je veux pas dire que j'ai burn-outé, mais j'ai eu plusieurs ruptures techniques de grande activité. Et je voulais maintenir aussi mon travail ordinaire, entre guillemets, mon vrai travail, et être aussi présent à la ferme. Donc ce que j'avais une super activité qui faisait que peut-être des fois je pouvais perdre un peu d'énergie et ce yallah me redonnait l'envie d'avancer à la ferme. Et le deuxième yallah que j'aimais bien aussi, c'était le côté dialogue interreligieux, puisque je vous ai dit donc hein, à l'âge du Christ, à 33 ans, je fais ma première communion. Et j'invite, et donc c'était en plein Ramadan, et j'invite mes copains musulmans à venir fêter avec moi à l'église ma première communion. Et c'est ce deuxième yallah insolent que j'aime bien, c'est pour dire allez, on avance tous vers le même Dieu. On n'est peut-être pas sur le même côté de la colline, mais on avance tous vers le même Dieu pour un peu plus d'humanité.
Mai 2017. À la ferme, joie d'accueillir des personnes de toute culture et de toute religion. Joie de discuter avec Samira et Emma, musulmanes. Samira me dit « Je n'ai pas vu le temps passer en parlant avec toi. Comme je suis touchée par leur ouverture d'esprit et leur confiance lorsque je leur parle de ce Dieu qui se fait si proche, qui vient demeurer en nous. » Lecture du jour. De quoi discutiez-vous en marchant ? Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? Christian de Chergé, qui était prieur de Tibérine, qui a été assassiné à l'Algérie, quand est-ce qu'il a été assassiné en... Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Hein. En 96. Alors, il disait « Chrétiens et musulmans, nous avons un besoin urgent d'entrer dans la miséricorde mutuelle. Pouvons-nous nous abreuver mutuellement ? Le trésor de Dieu est un pain qui ne se savoure qu'avec la multitude. »
Donc, Elisabeth, c'est ma Bible à moi. Chaque fois qu'il y a des belles phrases, elle les écrit. Donc ça, c'est des phrases qu'elle m'a lues et qu'elle a réécrites. Et avec les personnes handicapées de l'Arche, oui, c'est vrai. On accueille aussi les personnes handicapées de l'Arche à la ferme. Ah oui, parce que vous voyez peut-être pas dans le petit film, on accueille des fous comme moi, mais on accueille aussi des gens qui sont pas fous, ils ont juste un handicap intellectuel. C'est-à-dire qu'ils sont vachement plus intelligents que nous. Et comme ils sont vachement plus intelligents que nous, on a décidé de les mettre dans des hôpitaux psychiatriques. Et il y a Jean Vanier qui, à une époque, a dit « Tiens, si on les mettait pas dans des hôpitaux psychiatriques, mais si on les mettait dans des communautés de l'Arche, et si on vivait avec eux. » Et dans la conférence précédente, il expliquait l'importance du moment présent. Et ces personnes handicapées mentales, elles sont vraiment dans le présent. Les animaux qui sont à la ferme, ils sont dans le présent. Le cheval, quand il a faim, il mange. Il dit pas, cette botte, je me la mets derrière les fagots et j'irai la manger tout à l'heure. D'accord ? Le cheval, il est dans le présent. Ses émotions, elles sont dans le présent. Et ça, c'est important. Je pense que de mon hyperactivité ou du monde de la société, on a tendance à oublier le moment présent. Et c'est ce que fait d'ailleurs Framboise avec nous. Elle nous fait des fois des petits exercices pour être dans le présent, pour être en cohérence avec son cœur et ses émotions et pour être aussi présent à la nature. Et elle nous apprend aussi à savoir remercier. Ce que peut-être vous savez faire dans la prière, mais quand on n'est pas super catho comme moi, il faut trouver d'autres outils. Bon, ben là j'en ai trouvé deux. J'ai les outils de Framboise et maintenant que je suis catho, j'ai aussi les outils des cathos. Voilà.
Alors par rapport aux personnes handicapées, moi j'ai la chance aussi d'aller à Paul Dautin faire de l'animation en tant que blues rose, voilà, avec la guitare, enfin voilà. Mercredi 4 mars 2010, hier, quelle joie mon Dieu de partager ce temps avec les enfants handicapés de Paul Dautin. Joie de voir Ismaël, si fier de mettre les Legos sur la tablette, elle qui a tant de mal à utiliser ses mains. Elle me dit « Quand on veut, on peut ». Quelle leçon de patience elle me donne. Simone Veil, la philosophe. Hein,
oui, pas celle qui est morte aujourd'hui, mais qui était très bien aussi. Hein.
Simone Veil, la philosophe, écrivait « Seuls des êtres tombés au dernier degré de l'humiliation, sans considération sociale, seuls ceux-là ont en fait la possibilité de dire la vérité. Nous sommes confiés les uns aux autres. » Car ces enfants, plus que les autres, nous sont abandonnés, sans défense. En ce sens, ils sont Dieu. Et Maurice Zendel disait un peu la même chose. L'autre, finalement, l'autre, c'est Dieu. Dans les autres, il y a l'autre, avec un grand A. Et c'est parce que dans les autres, le destin de Dieu est engagé. C'est à cause de cela que le prochain nous est confié. C'est à cause de cela que nous avons la charge des autres. Parce qu'en eux, nous avons la charge de l'autre, avec un grand A. Et Thi Lesou me disait, en chacun d'eux, j'aime une partielle de toi.
Merci, elle me rend le micro. Vous avez vu comment elle s'est appropriée petit à petit le micro, elle glissait sur son livre. Alors, ben, si on en est aux phrases des gens qui sont pas nous, là, des auteurs, c'est Bobin, c'est Christian son prénom ?
Oui.
Christian Bobin. j'en connais qu'une de lui, mais il disait, on a un trésor en nous. J'ai un trésor. Il est inépuisable à condition de le consommer, de le dépenser ou de le consommer entièrement. Puis c'est pas grave, même si c'est pas Christian Bobin qui l'a dit exactement comme ça, moi je vous le dis comme ça, voilà. D'accord ? On a un trésor en nous à condition de le consommer ou de le dépenser, mais entièrement. Voilà. Et si j'ai une envie dans cette conférence, une envie de vous donner envie, c'est vous donner envie de faire des choses petitement, mais entièrement. Voilà. Que c'est possible que chaque fois on arrive à trouver une petite idée pour faire un petit peu avancer le monde autour de nous. Et ensemble. Le projet de la ferme, il s'est fait ensemble. Il s'est pas fait tout seul. Voilà. Ça s'est fait en équipe. Et ça s'est fait en équipe et aussi avec, je dirais, moi qui ai commencé à bosser dans les soutiens-gorge. C'était mon premier travail, informaticien dans les soutiens-gorge. La ferme s'est construite aussi avec la douceur et de l'équipe féminine qui m'entourait. Voilà. Et je pense aussi Elisabeth qui vraiment m'a ramassé plusieurs fois à la petite cuillère. Quoi. T'as un passage où tu me ramasses à la petite cuillère ? Genre du style, Ralph est rentré, il n'en pouvait plus, il a dit j'arrête.
Grâce à Raphaël, ma vie est vraiment riche en rencontres. Et même si la tentation serait grande de choisir la facilité à la ferme en accueillant que des personnes autonomes qui mènent leur vie sans avoir besoin des autres, mon constat est de voir que la joie est bien plus grande quand on est amené à s'épauler, à se donner soi-même, à être inventif, pour que chacun trouve sa place. Thierry est parti, bien sûr, il était retombé dans l'alcool. On ne pouvait pas le garder. Puis il n'adhérait plus au projet, mais il nous manque. Il arrive toujours pour discuter, prendre le temps d'être là, d'improviser un pique-nique. Et là, je me disais que c'était super tout ce qu'on vivait avec les Roumains, mais s'ils ne peuvent pas rester, même s'ils ne peuvent pas rester. La joie de se voir, de prendre le temps de discuter, prendre un café ensemble, rire, danser. Bien sûr que ce n'est pas toujours facile, mais c'est tellement plus riche que d'être seul à ne se soucier que de soi-même. Alors je continuerai à choisir d'accueillir celui que tu mets sur ma route, ou que Ralph met sur ma route.
Thierry, la personne dont il parlait dans les écrits, tout est né de cette rencontre. Thierry était donc SDF dans la forêt de Pêche-David. Oui, donc la ferme, hein, vous avez vu, c'est ici, là, à Pauvourville, sur les hauteurs de Pêche-David. 3500 mètres carrés constructibles que ma famille avait. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose. Voilà. Et je me promène avec mes chèvres et je rencontre Thierry qui était dans la forêt. Et on apprend à se connaître. Il avait un chien qui faisait peur. Bon, j'avais eu des chiens guides d'aveugles, donc je savais un peu parler aux chiens. J'avais jamais vu un SDF, mais par la médiation du chien, j'ai pu comprendre qu'il était en grande souffrance, puisque le chien aussi disait « waf, 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 ça va pas trop ». Mais j'avais mes chèvres. Les chèvres, ça attaque un peu les chiens. Donc, on était chacun dans ses retranchements, petit à petit. On a appris à s'apprivoiser, un peu comme le petit prince avec le renard. Et un jour, donc, je suis allé boire le café dans la tente de Thierry qu'il avait mise cachée dans la forêt. Et puis après, je continuais avec mes chèvres à la ferme. Il n'y avait que deux chèvres et pour brouter sur ces 3500 mètres carrés. Et puis je vois Thierry qui passe dans le chemin, on se salue, le deuxième jour on se salue, j'ai dit hey, « Salut Thierry, tu vas où ?» Il dit « Je vais chercher de l'eau à l'église. » Ah, alors vous avez vu, déjà il y a l'église. J'ai dit « Mais à quoi ça sert ça ?» J'ai dit « Thierry, pourquoi tu vas chercher de l'eau à l'église ? Moi j'ai de l'eau sur mon terrain, elle n'est pas bénite, mais c'est de l'eau. » Et on a commencé à se rencontrer comme ça, et il m'a dit « Mais qu'est-ce que je peux faire en échange ?» Ah, mais chouette, Thierry. On va pouvoir se rendre mutuellement la vie plus belle. Je te donne de l'eau, tu m'aides à réparer une barrière, etc. Et petit à petit, on a fait le projet comme ça. Un jour, j'ai dit, Thierry, est-ce que ça te ferait plaisir de planter ta tente dans mon jardin? Parce qu'il y a des voisins qui râlent parce que t'es sur un terrain public. Alors, tu peux squatter chez moi, ça gêne pas. Ça a très bien marché. C'est moi qui ai eu un procès des voisins parce que je paupérisais le quartier. Alors, n'interprétez pas que ce côté insolent des voisins qui me font un procès parce que je me fais squatter par des SDF, je les comprends quand même. Ils étaient tranquilles à Pauvreville. Qu'est-ce qu'ils avaient à ce que ce Raphaël mettre des chalets en bois dans un jardin avec des chèvres alors qu'on est en plein centre-ville de Toulouse, ou du moins limite zone verte, dans un quartier calme. Donc je les comprends. Mais ils n'ont pas le choix avec moi, on est obligé de vivre ensemble. Moi je pense qu'on est condamné à vivre ensemble. Je trouve qu'il y a encore trop d'exclusion. Il y a trop d'exclusion de personnes handicapées. Il y a trop d'exclusion des femmes dans la société. C'est insupportable. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui je gênerais en étant un peu plus inclusif que exclusif. Je parlais avec une dame qui se reconnaîtra, des entreprises qui embauchent des personnes handicapées. Et il y en a qui disaient, ouais, ils exagèrent, il y a des entreprises qui se sont spécialisées dans l'embauche de personnes handicapées. Puisqu'on a beau mettre des amendes aux entreprises, elles n'arrivent pas à embaucher des personnes handicapées. Parce qu'elles n'ont pas la compétence, elles n'ont pas l'accompagnement, et puis elles préfèrent payer l'amende, etc. Donc du coup, il y a des entreprises qui deviennent spécialistes pour embaucher des personnes handicapées, et on dit en plus qu'elles les exploitent. Et moi, je réponds à cette dame, bah, c'est mieux que rien. Et après, elle m'ouvre un peu les yeux. Elle me dit, mais si on n'avait pas exclu ces personnes dès le début, on ne serait pas arrivé là. Donc c'est ça que j'aime bien des fois, le projet de la ferme, il me fait un autre regard. C'est un peu comme là quand je vous parle aujourd'hui, et Zabeth qui relie ses notes. Voilà, vous avez deux angles de caméra. Donc oui, on peut faire de l'urgence sur l'accueil des personnes handicapées, mais on pourrait peut-être faire aussi en amont de l'éducation, pour dire qu'on peut inclure les personnes handicapées. Donc, deuxième regard, vous voyez, hein, on peut aller faire de l'urgence à Haïti parce qu'il y a un tremblement de terre. Et on dit, oh, tremblement de terre ou typhon, c'est désastreux. Non, mais si on avait agi avant, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux? Donc, voilà, c'est ça que j'aime bien des fois, c'est bouleverser le regard par cette insolence, voilà, ou cette impertinence. Donc, oui, je me suis auto-squatté au grand malheur de certains de mes voisins. Voilà. Après, certains voisins sont très contents. Et ceux qui sont partis ont trouvé des acquéreurs pour leur maison. Et ceux qui ont acheté à côté de la ferme, ils ont acheté parce qu'il y avait la ferme. Donc petit à petit, ça se renouvelle. Et voilà.
Alors, à propos des voisins. Oui, parce qu'ils parlent beaucoup, mon mec. Alors, avril 2012, je te confie particulièrement les voisins, afin que l'on apprenne à se comprendre, à s'entendre. Mon Dieu, donne-nous la patience, la compréhension mutuelle, le désir de vouloir le meilleur pour chaque personne que tu mets sur notre route. Merci. Septembre 2015. Un huissier de justice passe pour donner une réquisition suite à la plainte des voisins. Je la donne à Ralph et lui dis avec insistance, « Ne t'inquiète pas, on est sur du roc. » Mon Dieu, auprès de toi, on ne craint rien. La justice des hommes n'est rien par rapport à ta justice. On pourrait tout nous prendre, on ne pourra jamais nous voler la joie et la paix que tu mets en nos cœurs. Je serai vigilante, ô mon Dieu, de toujours te laisser toute la place en mon cœur afin qu'aucun mal ne puisse s'y loger. Alors c'est Étienne Soum qui disait quelque chose comme ça. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d'avance. Une chose cependant m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Ce faisant, nous aidons nous-mêmes. 11 novembre 2015. Aujourd'hui, Framboise me dit qu'elle a une idée un peu folle. Elle me propose de se retrouver toutes les deux pour méditer. Bon, je traduirai pour moi prier. Afin que nos relations avec nos voisins s'améliorent. Elle est extraordinaire. Je lui dis que dans mon jargon, on appelle ça la communion des saints. Merci mon Dieu pour Framboise et toute la bonté qu'elle a. Je te la confie, comble-la par ton amour, ta paix et ta joie. Et qu'ensemble nous soyons tes ouvrières de réconciliation. Guide-nous. Merci.
Je ne sais pas si c'est Thierry Soum ou... Mais c'est moi qui vous le dis. Mais j'ai dû le piquer à quelqu'un. En tout cas, comme le projet de la ferme. Hein. Le projet de la ferme, j'ai piqué des idées à plein de monde. Hein. Thierry Soum, elle disait... elle priait. Elle disait, mon Dieu, je prie pour pas que tu t'éteignes en moi. Eh bien, ça me parle. Oui, je vous disais... J'ai piqué des idées partout. Bon, parce que grâce à l'Arche, j'ai rencontré Jean Vanier, qui me disait, commence petit, tu pourras faire des virages à 360 degrés. J'ai dit ça aux voisins, mais on dit, mais c'est déjà un peu trop gros. Bon. J'ai rencontré Guy Gilbert, qui m'avait donné quand même des idées en disant que franchement, avec les animaux, ils faisaient du bon travail. Voilà, ça apportait vraiment une douceur. Et après, j'ai pris des idées un peu partout de vivre ensemble. Voilà. Ce que je dis aux gens qui viennent nous voir à la ferme et qui veulent copier-coller le concept, je dis, ben, je sais pas, c'est comme de la, quand vous faites la cuisine. Enfin, je suis pas un super cuisinier, mais en suivant une recette, j'arrive jamais à faire monter la mayonnaise ou faire une pâtisserie. D'ailleurs, du coup, j'arrête les pâtisseries. Mais donc, c'est pour ça, il faut pas prendre, si vous allez à la ferme, inspirez-vous, mais, après, faites attention à l'écosystème dans lequel vous allez vous implanter pour être à l'écoute des gens et le projet sera différent. Voilà. Souvent, on veut faire des modèles ou des concepts, etc. Non, moi, je préfère que piquer les idées et adapter-les en groupe quand vous faites un autre projet. Ça y est, c'était mon idée sur le copyright.
Il y a quand même eu un tournant important. C'est qu'on a eu notre petite cinquième qui a été au ciel. Il y avait l'avant, il y avait l'après. Alors, il y a des choses, il y a des cadeaux qui sont faits avant. Je pourrais vous le dire. C'est-à-dire que, avant, par exemple, je me faisais une réflexion. Hier, pendant le spectacle Pénélope au TNT, j'ai le temps de méditer. Je réalise que j'ai bien de la chance d'avoir passé 36 ans de ma vie sans être tombée dans la folie. En effet, je sais que la souffrance qui arrive à chacun peut faire perdre pied si l'on s'y enferme. La perte de son enfant. Elle n'était pas encore morte. Elle n'était pas encore née. Je réalise que pour ne pas s'y enfermer, il faut ouvrir les yeux et voir les autres personnes qui ont tant besoin de notre amour, tant besoin de se relever de leur souffrance, tant besoin de voir que la vie vaut la peine d'être vécue et qu'elle apporte la joie. Mon Dieu, lorsque le temps des grandes souffrances arrivera, viens, prends toute la place en mon cœur afin que je ne m'enferme pas sur moi, mais que j'apporte tout l'amour que tu me donnes à chacune des personnes qui m'entourent. Elles n'ont peut-être pas déjà 36 ans de vie et ont tant besoin de tenir debout toute leur existence. Merci mon Dieu pour la grâce que tu me fais de réaliser ça maintenant. Alors Salomé, elle a été au ciel à la Saint-Benoît 2011. Mercredi 5 août, ça c'était en 2010. Bizarre, pourquoi j'ai parfois envie de vomir? Est-ce que j'ai chopé une cochonnerie ou suis-je enceinte? Je suis allée faire un test de grossesse et c'est négatif, mais bon, ce n'est pas fiable à 100%. Mercredi 19 août, je le savais, je suis enceinte. Et naissance de Salomé, donc là c'est... ah oui, les accouchements c'est extraordinaire. Si vous avez eu la chance d'accoucher, sans péridurale en plus, je peux vous dire, ça, on le sent passer. Et c'est, je pense qu'on touche au mystère de la vie et de la mort. Parce que les souffrances, elles ne sont rien par rapport à la joie de la vie qui est après. Et je reviens un peu en arrière, parce que ces réflexions je me les faisais avant. Enfin, après les accouchements aussi, hein, je veux dire. Mais là, ça, c'est Saint Ignace qui dit « Il est bon pour moi de mourir dans le Christ Jésus plus que de régner sur les extrémités de la terre. C'est lui que je cherche qui est mort pour nous, lui que je veux qui est ressuscité pour nous. Mon enfantement approche. » Alors, notre accouchement vers la vie dans le Christ, il faut s'y préparer. Alors, s'y préparer, je vais vous dire, un accouchement, c'est quoi? Il faut se préparer, il faut apprendre à respirer. Alors respirer, je me suis dit, c'est être dans le moment présent, hein, aussi. Il faut aller de l'avant et il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise, il faut faire confiance à ceux qui nous entourent. Le jour de l'accouchement, il y a un moment donné, on ne se supporte plus. Je peux vous dire que sans péridurale, on ne se supporte plus. Puis après un cinquième, je peux dire autant. Hein. Eh bien,
Yallah,
on fait confiance à ceux qui nous entourent. N'ayons pas peur. Parce que je vais vous dire, la joie après, elle est immense. Et la douleur, elle n'est rien à côté de la joie. Naissance de Salomé, je me répète que je dois pousser au maximum afin que le bébé ne souffre pas trop longtemps. Ce qui est incroyable, c'est qu'il sort. Merci mon Dieu, merci Marie, merci Raphaël. Lundi 21 février 2010, elle est là, bien vivante. Parfois la nuit, quand mon bébé est vraiment malade, je m'imagine qu'il s'est arrêté de respirer. Et le matin, quand je vais le voir, quel miracle de réaliser qu'elle est en vie. Merci mon Dieu pour tous ces instants que tu m'offres de partager la vie de ce que j'aime. Et de toutes ces personnes que je croise et qui font mon quotidien. Ces personnes dans la rue, dans leur voiture, à leur travail. 13 juin 2011. Et toi, mon frère qui vis la souffrance, la guerre, la torture, qu'est-ce que je fais pour toi? Et si mes enfants, mes petits ou arrière-petits-enfants ou encore plus loin vivaient des choses terribles, est-ce que je ne souhaiterais pas que les vivants viennent les aider, les soutenir et les aimer? Si moi, je peux le faire pour mon frère, alors je sais que d'autres pourront le faire pour les miens. Se sentir solidaires les uns des autres, tous frères, Donc lundi 11 juillet 2011, Salomé, ma petite chérie, tu nous as quittés aujourd'hui. Et bon, elle a eu un arrêt cardiaque la nuit, comme ça, on ne savait pas. Salomé n'est plus là, elle est près de toi, mon Dieu. Elle doit être surprise d'être déjà arrivée dans le paradis. Et je me faisais cette réflexion, je pense qu'un bébé, il se retourne, et hop, il ouvre les yeux, et puis ah, c'est tout lumineux, parce que vu qu'il n'y a que de l'amour, voilà, c'est juste un mouvement comme ça. Vous savez, quand on tient un bébé, c'est tout lumineux, c'est tout rayonnant. D'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de le regarder, parce que ben, il porte le ciel en lui, hein, il est déjà au paradis, hein, en fait. Le mal n'a aucune accroche. Soyez comme les tout-petits, mais le mal, il n'a aucune... Voilà, le tout-petit, on peut lui faire du mal, il ne peut pas faire du mal. Il ne comprend pas le mal. Mon Dieu, tu me l'as confié pendant une année, je te la confie jusqu'à nos retrouvailles. Mon Dieu, que notre amour mutuel nous nourrisse chacune. Salomé, tu as été un cadeau surprise, je ne m'attendais pas à avoir un autre enfant. Que de joie j'ai partagé avec toi, ma chérie. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il avait fait, c'était la sécheresse, hein, pendant un mois, là, c'était la canicule. Et là, ben, le ciel, il s'est déchaîné, quoi. Pendant 15 jours, il n'a pas arrêté de pleuvoir, c'était tonnerre et tout ça, enfin, Dieu était en colère. C'est comme ça que je l'ai accueilli. Bon, mais j'ai eu énormément de grâce, donc ça c'était un cadeau immense. Je pense que dans la foi immense que j'avais, je pense que quand on n'a pas le cœur blindé, en fait, on reçoit énormément. Le jour même, le texte du jour, c'était « Quiconque aura laissé maison, frère, sœur, père, mère et même enfant, à cause de mon nom, recevra au centuple et aura en héritage la vie éternelle. » Et le soir de la mort de Salomé, j'avais imprimé une photo d'elle, j'avais encore besoin de lui faire un câlin. Et j'ai eu, dans la nuit, c'est un truc quand même incroyable, c'est que je l'ai sentie physiquement, là, voilà. Elle avait pris place dans mon cœur, là. Donc ça, c'est un grand cadeau. Et quelques temps après, je vais à Lourdes, enfin, ça devait être 15 jours après, et puis j'ouvre un livre de Sainte Élisabeth de la Trinité, qui écrit « Nous portons notre ciel en nous ». Alors je le savais, mais étant donné qu'elle le dit, c'est une sainte, hein, vous pouvez la croire. Nous portons le ciel en nous. C'est-à-dire que si nous portons le ciel, déjà chacun est un trésor. Il faut prendre soin de chacun parce que, voilà, on porte le ciel. Et les personnes que l'on aime, elles sont encore plus proches que l'on ne le croit. Elles sont encore plus proches qu'elles étaient. Voilà, ça c'est immense. Alors, au fond du fond, il n'y a que de l'amour. Alors il y a des choses que je ne comprenais absolument pas, hein. Je veux dire, avant je pensais que le royaume de Dieu c'était un monde parallèle, un peu lointain, voilà, des choses tant qu'on ne les vit pas. Et c'est Simone Veil, je ne comprenais pas, moi je ne suis pas une très grande intellectuelle, alors la philosophe là justement elle disait des choses, je ne comprenais pas. Et ce qu'elle disait, je l'ai compris, mais alors il y a des choses on ne les comprend qu'après, comme Saint Paul, il y a des choses que j'ai compris après. Ce qu'elle dit, c'est... On ne peut se préparer à la souffrance, hein, les grandes souffrances, les vraies souffrances, je veux dire, pas une souffrance qu'on cherche. Hein. Et cette souffrance-là, elle crée un vide, où Dieu se prend volontairement au piège. En fait, la nature ne supporte pas le vide. Et si on ne comble pas ce vide, à moindre frais, alors, quand on a un décès, souvent on va le combler par de l'hyperactivité, par l'alcool, les drogues, les médicaments. Et j'ai eu la grâce immense de savoir qu'il y avait quelque chose d'essentiel qui se jouait là. Donc je me suis dit, oulala, il faut être absolument réveillé. Et quand on me disait, mais il faut peut-être que tu prennes un peu d'homéopathie là, de trucs anti-stress, machin, et tout ça. Ah non, 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 il faut que je sois vraiment réveillée. Et en fait, je m'étais mise à genoux. Et c'est vrai que, au fond du fond, il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour. Alors, il ne faut pas se blinder le cœur pour recevoir tout ça. Hein. Voilà. Je pense que quand on parlait tout à l'heure de l'immortalité et de l'éternité, les gens qui veulent être dans l'immortalité, ils sont tout pleins d'eux-mêmes. Mais pour que Dieu prenne toute la place et pour qu'on soit dans la vie, il faut être tout vide, justement. Il faut laisser toute la place à Dieu. C'est ça. Et alors, je vais vous lire juste une petite chose, c'est de Christine Singer, vous connaissez peut-être, qui a écrit... dernier fragment d'un long voyage. Et alors, c'est important quand même de partager la joie, hein. À tout âge, c'est important. Et Christine Singer, qui est décédée, elle avait écrit un livre 6 mois avant son... Elle avait un cancer, elle savait qu'elle allait mourir, on lui avait fait une commande, enfin, on lui avait dit, il faut que tu écrives ce que tu vis, c'était une écrivaine. Et donc, elle était vraiment mal en point, et elle a vécu des choses... elle dit, par rapport à la souffrance... parce que c'est cette souffrance qui m'a abrasée, qui m'a rabotée jusqu'à la transparence. Ce qui est bouleversant, c'est que quand tout est détruit, quand il n'y a plus rien, mais vraiment plus rien, il n'y a pas la mort et le vide comme on le croirait, pas du tout. Je vous le jure, quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Il n'y a plus que l'amour. Tous les barrages craquent, c'est la noyade, l'immersion. L'amour n'est pas un sentiment, c'est la substance même de la création. Je croyais jusqu'alors que l'amour était reliance qui nous reliait les uns aux autres. Mais cela va beaucoup plus loin. Nous n'avons pas même à être reliés, nous sommes à l'intérieur les uns des autres. C'est cela le mystère, c'est cela le plus grand vertige. Au fond, je viens seulement vous apporter cette bonne nouvelle. De l'autre côté du pire t'attend l'amour. Il n'y a en vérité rien à craindre. Oui, c'est la bonne nouvelle que je vous apporte. Alors, amis, entendez ces mots que je vous dis là comme un grand appel à être vivant, à être dans la joie et à aimer immodérément.
Je laisse Elisabeth conclure là-dessus. Je veux juste vous dire la joie que j'ai eue de préparer avec Elisabeth cette intervention, la joie d'être avec vous ce soir et de le partager. Merci.